L'illusion de l'ordre moral. Il n'y a pas de nécessité éternelle qui exige que toute faute soit expiée et payée. Croire à cette nécessité, c'était là une terrible illusion, à peine utile. De même que c'est une illusion de croire que tout ce qui est considéré comme une faute en est une en réalité. Ce ne sont pas les choses qui ont tellement troublé les hommes, mais les opinions que l'on se fait des choses qui n'existent pas. À côté de l'expérience. Les grands esprits eux-mêmes n'ont qu'une expérience large de 5 doigts. Immédiatement après, cesse la réflexion et leur vie indéfinie, leur bêtise commence. La gravité alliée à l'ignorance. Partout où nous comprenons, nous devenons aimables, heureux, inventifs. Et partout où nous avons appris suffisamment, où nous nous sommes fait des yeux et des oreilles, notre esprit montre plus de souplesse et de grâce. Mais nous comprenons peu de choses et sommes pauvrement informés, en sorte qu'il arrive rarement que nous embrassions une chose et qu'en même temps nous nous rendions dignes d'amour. Raide et insensible plutôt, nous traversons la ville, la nature et l'histoire, et nous nous enorgueillissons de cette attitude et de cette froideur comme si elles étaient l'effet de la supériorité. Notre ignorance et notre médiocre soif de savoir s'entendent même très bien à prendre le masque de la dignité et du caractère. Vivre à bon compte. La façon de vivre la meilleure marché et la plus insouciante est celle du penseur. Car, pour dire tout de suite ce qui importe, c'est lui qui a le plus besoin des choses que les autres méprisent et abandonnent. Il se réjouit du reste facilement et ne connaît pas les coûteux accès au plaisir. Son travail n'est pas dur, mais en quelque sorte méridional. Ses jours et ses nuits ne sont pas gâtés par le remords. Il se meut, mange, boit et dort selon la mesure qui convient à son esprit, pour que celui-ci devienne de plus en plus tranquille, fort et clair. Il se réjouit de son corps et n'a pas de raison pour le craindre. Il n'a pas besoin de société, si ce n'est de temps en temps pour embrasser ensuite sa solitude avec d'autant plus de tendresse. Les morts le dédommagent des vivants, et il trouve même à remplacer ses amis en évoquant parmi les morts les meilleurs qui aient jamais vécu. Que l'on se demande une fois si ce ne sont pas les désirs et les habitudes contraires qui rendent la vie des hommes coûteuse, et par conséquent pénible et souvent insupportable. Dans un autre sens, pourtant, la vie du penseur est la plus coûteuse. Rien n'est trop bon pour lui, et être privé de ce qu'il y a de meilleur, ce serait pour le penseur une privation insupportable. En campagne, il nous faut prendre les choses plus joyeusement qu'elles ne le méritent, surtout parce que nous les avons prises au sérieux plus longtemps qu'elles ne le méritent. Ainsi parlent les braves soldats de la connaissance. Poète et oiseau. L'oiseau phénix montra au poète un rouleau embrasé qui se carbonisait. « Ne t'effraie pas, dit-il, c'est ton œuvre. Elle n'a pas l'esprit de l'époque et moins encore l'esprit de ceux qui vont contre l'époque. Par conséquent, il faut qu'elle soit brûlée. Mais c'est là un bon signe. Il y a maintes espèces d'horreurs. » Au solitaire. Si nous ne ménageons pas l'honneur des autres personnes, autant dans nos soliloques qu'en public, nous sommes des hommes malhonnêtes. Perte. Certaines pertes communiquent à l'âme une sublimité qui la fait s'abstenir de toute plainte et marcher en silence, comme de hauts cyprès noirs. Pharmacie militaire de l'âme. Quel est le médicament le plus efficace? La victoire. La vie doit nous tranquilliser. Si, comme le penseur, on vit habituellement dans le grand courant des idées et des sentiments, et que même nos rêves de la nuit suivent ce courant, on demande à la vie le calme et le silence, tandis que d'autres veulent justement se reposer de la vie quand ils s'abandonnent à la méditation. Changer de peau. Le serpent périt lorsqu'il ne peut pas changer de peau. De même, les esprits que l'on empêche de changer leurs opinions cessent d'être les esprits. Ne pas oublier. Plus nous nous élevons, plus nous paraissons petits au regard de ceux qui ne savent pas voler. Nous autres, aéronautes de l'esprit. C'est ces oiseaux hardis qui s'envolent vers des espaces lointains, toujours plus lointain. Il viendra certainement un moment où ils ne pourront aller plus loin, où ils se percheront sur un mât ou sur quelque aride récif, bien heureux encore de trouver ce misérable asile. Mais qui aurait le droit de conclure qu'il n'y a plus devant eux une voie libre et sans fin, et qu'ils ont volé si loin qu'on peut voler? Pourtant, tous nos grands initiateurs et tous nos précurseurs ont fini par s'arrêter, et quand la fatigue s'arrête, elle ne prend pas les attitudes les plus nobles et les plus gracieuses. Il en sera ainsi de toi et de moi. Mais qu'importe de toi et de moi? D'autres oiseaux voleront plus loin. Cette pensée, cette foi qui nous anime, prend son essor. Elle rivalise avec eux. Elle vole toujours plus loin, plus haut. Elle s'élance tout droit dans l'air au-dessus de notre tête et de la puissance de notre tête. Et du haut du ciel, elle voit dans les lointains de l'espace. Elle voit des troupes d'oiseaux bien plus puissants que nous qui s'élanceront dans la direction où nous nous élancions. Où tout n'est encore que mer, mer et encore mer. Où voulons-nous donc aller? Voulons-nous franchir la mer? Où nous entraîne cette passion puissante qui prime pour nous toute autre passion? Pourquoi ce vol est perdu dans cette direction? Vers le point où, jusqu'à présent, tous les soleils déclinèrent et s'éteignirent. Dira-t-on peut-être un jour de nous que, nous aussi, gouvernant toujours vers l'ouest, nous espérions atteindre une Inde inconnue, mais que c'était notre destinée d'échouer devant l'infini? Ou bien, mes frères, ou bien...